Cours d'éthique par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 9 octobre 89.
Je vous ai parlé la dernière fois ce que représente pour nous cette philosophie éthique. Comme dit Aristote, philosophie humaine. Philosophie pratique. Si je reprenais le commencement, je vous ferai une petite topique historique. Par la philosophie grecque, par la philosophie depuis Descartes, en passant par la théologie. Chaque fois qu'on fait une petite topique historique, elle est différente. Saisir, à travers l'histoire de notre monde occidental, ce problème éthique qui est toujours resté. Vous voyez, c'est la différence avec la métaphysique. Aucun philosophe n'ose dire qu'il n'y a pas d'éthique, même un marxiste. L'œcuménisme philosophique. Chacun de façon différente. Un épicure a sa situation dans l'éthique. Un marxiste a sa situation dans l'éthique. Et presque tous reconnaissent les vertus cardinales. C'est très curieux. Ce qui montre combien c'est enraciné dans le cœur de l'homme. L'homme est un animal responsable. Très responsable. Il l'oublie souvent, mais il l'est quand même. Et les psychologues eux-mêmes reconnaîtront que leur psychologie demande d'une certaine manière d'être dépassé dans une éthique. Mais, Hénard, le problème d'Hénard, il a écrit un petit livre, éthique sans péché, morale sans péché, il a dit. Dans une perspective psychologique, psychanalytique, Hénard, qui est un psychanalyste, dit: il n'y a pas de péché. Parce que pour un freudien, il n'y a pas de liberté. Et le psychologue, très souvent, pas tous, mais très souvent, montrera que l'homme est peu libre. Il y a des tas de motivations, d'excuses dans lesquelles il se trouve. Est-ce que Philippe de la ville de Bethsaïde était libre de suivre Jésus? C'est la séduction. Donc il n'était pas libre. Judas était libre de suivre Jésus. Quand quelqu'un fait profession dans la communauté Saint-Jean, au bout de 5 ans, 6 ans, et qu'il fait profession en disant qu'il est complètement libre. Et si plusieurs années après, il dit: ah non, j'étais pas libre, est-ce qu'il était libre? C'est très important ce problème, hein, on vit ça. Connais-toi toi-même, Socrate, l'arrière-grand-père de l'éthique. C'est un grand bonhomme quand même, hein, Socrate. Il aimait les jeunes. Il était entouré de jeunes. Et de jeunes bien. posons le problème. Parce que nous sommes aujourd'hui au creux de la vague de l'éthique. On ne trouve plus de professeurs de théologie morale. C'est très difficile de comprendre exactement aujourd'hui quel est le fondement de l'éthique. Un des problèmes critiques constants. On ne sait plus très bien. Il y a une morale qui tient la route, celle de Kant, chez les Allemands. Ce sont des gens bien. Tous les gens bien sont kantiens en Allemagne. En France, pas. Mais en Allemagne, ils sont kantiens. Professeur à Fribourg d'éthique qui était choisi pour enseigner une morale dans le sens de saint Thomas. On a très bien compris au bout de quelques années qu'il était conscient et il le déclare. Et pour lui, c'est la morale de saint Thomas que boutient Kant. C'est très difficile, parce qu'on est dans une période de creux en fonction du libéralisme. Le libéralisme, de fait, a fait que la liberté devient, j'allais dire, le morceau central de l'éthique. C'est sur la liberté que repose tout. Pas la fraternité, mais la liberté. En France, en Amérique, dans l'Europe, en Amérique. Alors, on doit se poser la question, mais loyalement, en philosophie, pas en théologie. En théologie, notre vie morale repose sur notre foi dans le Christ. Et toute l'éthique chrétienne repose sur Jésus qui nous dit « Il n'y a plus qu'un seul commandement, aimer Dieu, aimer le prochain. » Notre béatitude, c'est les béatitudes évangéliques. On ne peut plus retourner au paradis terrestre. On est des exilés. La morale chrétienne montre qu'on est des exilés. Donc on ne s'étonne pas beaucoup que dans le monde, on se trouve devant une sécularisation. Le fidéisme pratique consiste à dire qu'il ne peut pas y avoir d'éthique philosophique, qu'il ne peut y avoir qu'une éthique chrétienne. Puisque l'homme est corrompu. Et la conséquence de Luther. La nature humaine est corrompue. Donc il n'y a plus d'éthique philosophique. Il n'y a qu'une éthique chrétienne. Vous voyez, c'est très très subtil ça. C'est un problème très délicat. Puisque pratiquement, on peut presque dire que c'est vrai. Mais d'autre part, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a des hommes qui ont une conduite morale vraie et qui ne sont pas chrétiens. Et qu'on rencontre des chrétiens qui sont des filous du côté économique. baisse régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, et qui dans le commerce, le gros commerce, le petit commerce, ça encore rien. Mais alors, vraiment, entre à fond dans le mensonge. Et on a l'impression que ça ne les touche pas. Non, pas du tout. Alors, vous voyez, le problème est très complexe. Le chrétien accepte que la nature humaine est abîmée par le péché. On est dans un état de corruptibilité. Mais la nature humaine n'est pas corrompue. La distinction que l'Église catholique fait entre l'état de corruption et la nature, c'est très important pour nous, ça. L'état de corruption. On est né dans un état de corruption. Mais notre nature humaine demeure une nature humaine capable de poser des actes bons. Notre intelligence n'est pas corrompue par le péché. Et donc notre intelligence est capable de chercher la vérité. Par le fait même, il peut y avoir une éthique philosophique en cherchant ce que représente l'acte humain moral. L'acte humain où on est responsable de l'autre. L'acte humain volontaire est libre. Vous voyez, le propre de l'éthique philosophique, c'est de chercher ce qu'est l'acte humain, ce qu'est la vertu, ce qu'est le bonheur de l'homme, quelle est sa finalité propre. Et ceci est nécessaire, même si on est chrétien. Parce que la grâce ne détruit pas la nature. Et donc, même si l'éthique chrétienne bouleverse tout, même si l'éthique chrétienne a été dans l'histoire de l'humanité quelque chose qui a tout transformé. Cependant, cette éthique chrétienne respecte ce qu'il y a de fondamental dans la nature humaine. Si je ne fais pas une éthique philosophique, je risquerai de tomber dans un fidéisme pratique en disant « seule la foi » me donne une éthique. Et ce n'est pas juste, puisque la foi présuppose l'intelligence humaine spéculative et pratique. Puisque la foi est à la fois pratique et spéculative. Et que, dans une éducation chrétienne, on essaie de maintenir la justice. Et que la justice, ce sont des rapports humains, d'homme à homme. Je n'ai pas seulement à respecter la justice avec les catholiques. J'ai à respecter la justice avec tous les hommes, en tant qu'ils sont hommes. Et pour pouvoir comprendre cela, il est nécessaire de comprendre ce qu'est une éthique humaine, philosophique. Autrement, j'aurais la tentation de dire « je suis bon avec les bons et je suis mauvais avec les mauvais ». Et pour chacun d'entre nous, la division entre bon et mauvais serait très subjective. c'est contraire à ma foi chrétienne de refuser une éthique philosophique. Savez-vous le comprendre? Parce que je sais que ça peut être la question, mais pourquoi faites-vous une éthique philosophique? Ça ne sert à rien, on est des chrétiens. Nous sommes tous chrétiens. Alors je pourrais dire tout de suite, je vais commencer par la philosophie chrétienne. C'est ma grande tentation chaque année. Je vais commencer par une éthique chrétienne, puisque là vous serez de plein pied. Eh bien je dis non, parce que j'enseigne la philosophie. Et qu'en enseignant la philosophie, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est l'éthique chrétienne si vous ne regardez pas ce qu'est l'éthique philosophique. Pourquoi? Parce qu'au point de vue philosophique, la grâce vient s'ajouter à la nature. Et que la grâce est connue, du moins acceptée dans la foi. Et au point de vue philosophique, la grâce est connue dans ses fruits. Et elle présuppose la nature humaine. Oui, ça c'est très important pour vous de bien comprendre pourquoi on commence par une éthique philosophique. Et que l'éthique philosophique d'Aristote, du païen, demeure. Alors quand je dis elle demeure, faisons attention. Nous ne prenons pas l'éthique d'Aristote comme norme de notre vie. Le permettre au noviciat ne vous commande pas l'éthique d'Aristote, mais il commande l'imitation de Jésus-Christ. Il ne le fait pas, mais c'est dans le fond. C'est l'imitation de Jésus-Christ. Et l'imitation de Jésus-Christ pour nous, c'est relire tout ce qui est révélé, et spécialement l'Évangile et les écrits de saint Paul, de saint Jean, de saint Jacques, de saint Pierre. Une éthique chrétienne et une théologie morale. L'éthique d'Aristote nous donne une philosophie éthique au point de vue humain en corrigeant certains aspects qui seraient du reste très intéressants quand vous lisez l'éthique d'Aristote, l'éthique à Nicomaque. Il faut la lire. Ceux qui sont en seconde année doivent lire l'éthique à Nicomaque. C'est par là qu'on entre dans Aristote. Ça, il faut le lire. Il faut avoir un contact avec Aristote. Ne prenez pas tout de suite la métaphysique, parce que le début, vous pouvez le lire. Mais, et si ça vous intéresse, vous continuez. C'est pas perdu. Vous ne perdez pas votre temps en lisant Aristote. Mais vous vous cassez les dents. Faites attention, parce qu'il y a des dents qui ne repoussent plus. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon de se casser les dents. Si on veut être un bon chien du Seigneur. Alors, l'éthique à Aristote, quand vous lisez, notez tout ce qui vous semble contraire à l'Évangile. Oui, c'est très intéressant, ça. Question disputée là-dessus. Dis tout ce qui, dans l'éthique d'Aristote, me choque en tant que chrétien. C'est très intéressant, parce que là, vous lisez l'éthique d'Aristote avec une interrogation. Qu'est-ce que je peux assimiler? Immédiatement, qu'est-ce que je ne peux pas assimiler? Ça, c'est important. Et on doit le faire, ça. Et c'est plus facile pour l'éthique que pour la politique. La politique d'Aristote est plus difficile. Troisième année. La politique d'Aristote. Parce que c'est important, il faut avoir lu ces écrits d'Aristote. En Amérique, au point de vue pratique, ils avaient dit qu'il y avait 100 livres qu'il fallait lire pour un homme cultivé. Et parmi ces 100 livres, il y a l'éthique à Nicomaque. Donc vous voyez, c'est reconnu officiellement par tout le monde. pas votre foi. Non. C'est pour ça que c'est très important. Alors, sur quoi se fonde l'éthique? Puisque toute philosophie part de l'expérience. Alors, relevez vous-même. Faites ça, petit chantier. Sur quoi, pour vous, se fonde l'éthique? J'ai quelques très bons exemples. Je prends tout de suite l'éthique kantienne. L'éthique kantienne se fonde sur le devoir. Tu dois faire ça. C'est ton devoir. Un bon novice se lève à telle heure. Tu dois le faire. Il se couche à telle heure, tu dois le faire. Tu dois travailler Aristote, tu dois le faire. Morale kantienne, c'est une morale qui existe énormément dans la sacrée droite française. Tu dois faire ça, c'est ton devoir. Peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance, si tu aimes ou tu n'aimes pas, tu dois le faire. C'est Kant digéré à la française. Alors ça fait quelque chose d'assez particulier. Mais on voit ça, c'est évident. C'est le devoir d'État. Et si vous ne prêchez pas sur le devoir d'État, vous n'avez rien compris à la morale. Donc, point de départ, le devoir. Pouvons-nous construire une éthique humaine, philosophique, sur le devoir? Je dis non. Pourquoi? Je vais vous scandaliser. Mais c'est bien de vous scandaliser pour faire tomber des tas de choses qui sont restées comme des a priori. Parce que le devoir, on le fait par amour pour Dieu, pour ses parents, pour la gloire. Sa gloire personnelle, pour son autonomie, et ainsi de suite. Le devoir n'est pas une finalité. C'est un moyen honnête. Or, l'éthique doit découvrir la finalité de l'homme et ne peut se fonder que sur la finalité de l'homme. Parce que l'éthique philosophique doit, comme toutes les parties de la philosophie, doit être exhaustive sur les activités humaines. Or, parmi les activités humaines, il y en a beaucoup qui ne sont pas commandées par le devoir. Par exemple, l'amitié, c'est pas commandé par le devoir. Se cultiver, c'est pas commandé par le devoir. J'aime l'art, ça me fait plaisir d'entendre un très beau œuvre de musique. J'aime de voir une exposition. Ce n'est pas le devoir. Donc, supprimons. Or, ça peut être humain, et ça peut être très important pour ma vie humaine, comme l'amitié, d'une autre façon. Alors, je vois que le devoir est enveloppé par autre chose. Que le devoir exprime quelque chose d'important, c'est sûr, je ne le dis pas, mais quelque chose de restreint par ma vie humaine. Or, si j'ai une philosophie éthique, elle doit embrasser toutes mes les activités humaines, qui sont humaines, et qui peuvent être bonnes ou mauvaises, en vue de ma fin. Est-ce que mon éthique peut reposer sur le premier amour de l'enfant pour sa mère? Nous avons tous, au point de départ de notre vie humaine, aimé celle qui était notre mère. Et si notre mère est morte, nous avons été des orphelins. Il y a eu quelqu'un qui a remplacé notre mère. Et nous l'avons aimée d'un premier amour. Est-ce que l'éthique humaine peut commencer par ça? C'est fondamental, ça. On parle beaucoup du sevrage. Hein? Freud. Ça prouve que c'est très important. Celle qui a été pour moi source de nourriture. Le lait maternel ou le biberon. Elle a été très importante. Celle qui m'a nourri. À laquelle je me suis attaché. Est-ce qu'au fond, une éthique ne doit pas commencer par ça? Et analyser ça? Je dis non. Hein, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi. Alors, je veux des raisons philosophiques. Et vous mettrez vos raisons. Je dis non. Pourquoi? Parce que cet amour n'est pas actuel. C'est une expérience passée. Très cachée. Les psychanalystes essaient de retrouver ma première expérience et le premier refus. Et on sait très bien que c'est de l'ordre de la réminiscence. C'est de l'ordre du souvenir, mais ce n'est pas actuel. Or, l'éthique philosophique se base sur une expérience actuelle. Mon premier amour, a-t-il été ma mère ou le biberon? Psychologiquement parlant, pas si grave que ça a déterminé. Hein. Je ne peux pas. Deuxièmement, c'est possible que ce premier amour soit le premier acte humain que j'ai posé. C'est possible. Mais c'est le premier, le plus imparfait. Donc c'est le premier dans l'ordre génétique. Or, l'éthique philosophique ne peut pas commencer par un ordre génétique. Je ne le refuse pas. Et cet ordre génétique, je le recompose, puisque je le vis maintenant. Il faut trouver le premier dans l'ordre de nature, la finalité. Ça, évidemment, ça implique une petite critique. J'ai découvert qu'il y avait toujours deux ordres, un ordre génétique et un ordre de nature. L'ordre de nature, c'est l'ordre de perfection. L'ordre génétique va de l'imparfait au parfait. Est-ce que je peux comprendre ce qui est parfait par l'imparfait? Non. L'imparfait implique une potentialité. Le parfait implique une actualité. Or, l'acte ne se comprend pas par la puissance. C'est l'inverse. C'est la puissance qui se comprend par l'acte. Je donne un exemple que vous allez tout de suite comprendre. Pouvons-nous dire que le Christ se comprend par Abraham? Et par Adam. Ou est-ce que c'est le Christ qui me fait comprendre ce qu'est Abraham et ce qu'est Adam? Vous voyez, le défaut de beaucoup d'exégètes d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent expliquer l'acte de foi de Marie à l'Annonciation par l'acte de foi d'Abraham, par l'acte de foi de tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament une Annonciation. Alors l'acte de foi de Marie a une perfection unique. Et donc c'est lui qui me fait comprendre tous les imparfaits. Ça, c'est très important à bien saisir. Troisième hypothèse de recherche. L'éthique doit se fonder sur la liberté. Faisons la philosophie de la liberté humaine pour faire l'éthique. La position d'une éthique libérale, d'un libéralisme posé à l'absolu. Et je dis non. Bien que l'expérience de la liberté, je peux l'avoir actuellement, vous êtes libre d'assister à ce cours. C'est-à-dire, pas du tout, je suis pas libre du tout. Je suis pas libre du tout. Ben oui, vous êtes libre, parce que vous êtes entré librement dans la communauté. Au noviciat. Et au noviciat, puisque vous êtes entré librement, vous acceptez ce qu'on vous demande. On vous dit, vous assisterez au cours. Oui, très bien. Une obéissance libre. Donc, vous avez l'expérience de la liberté en assistant au cours. Une liberté mitigée par le noviciat. Mais vous avez quand même l'expérience de la liberté. Le cours se terminera à telle heure. Il y aura le repas. Vous prendrez librement le repas. Alors là, peut-être, une liberté moins mitigée. Parce que vous avez faim et donc vous désirez manger. Mais c'est encore à cause du noviciat. Quand vous êtes entré au noviciat, vous êtes entré librement. Et on vous l'a dit. On vous a peut-être donné des conseils. On vous dit, oui, je crois que c'est bien. Et vous attendez librement, acte libre. Peut-on fonder une éthique humaine sur la liberté? Et j'ai dit non. Pourquoi? Parce que la liberté n'est pas l'acte fondamental de ma vie humaine. La preuve, c'est qu'il peut y avoir des libertés mitigées. La preuve, c'est que la liberté n'est jamais parfaite. Vous n'avez jamais posé un acte de liberté pure. Ça n'existe pas. Il y a eu des quantités de motivations à côté qui font que votre liberté est très limitée. Très limitée. Nous sommes tous des êtres influençables et influencés. Celui qui prétend n'avoir subi aucune influence, il faut être comme Claudel. Claudel a déclaré ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles, à Fribourg. Je n'ai subi aucune influence. Ah, à ce moment-là, tout le monde applaudit. C'est faux. Ça prouve qu'on est complètement influencé. Et qu'on ne le voit même pas. On a tous subi des influences. C'est même bon de le déclarer. C'est même grand de le déclarer. Notre autonomie n'est jamais parfaite. Notre autonomie, elle est faite d'influences acceptées, digérées, assimilées. C'est ça un être humain. Il est influencé depuis sa jeunesse. Vous avez été influencé par votre milieu. Et ça reste. Vous avez été influencé par vos parents, et ça reste. Vous avez été influencé par vos frères et sœurs, si vous en avez eu, et ça reste. Par des amis, par des professeurs, par des curés, et ça reste. Vous avez été influencé. On le reconnaît. Le tout, c'est que cette influence soit assimilée pleinement et qu'on s'en serve dans un choix libre. Je ne peux pas faire donc, je ne peux pas partir de la liberté, parce que la liberté n'est jamais première. D'où naît la liberté ? Nous le verrons. La liberté de l'artiste, la liberté de l'ami. Quand on aime un ami, on respecte sa liberté. On respecte sa liberté. Et respecter sa liberté, ça se fait grâce à l'amour qu'on a pour lui. Et donc l'amour est quelque chose de plus fondamental que la liberté. Je ne peux donc pas partir de ces quelques points de départ. Chercher rien d'autre. Peut-on faire une éthique philosophique de la jouissance ? Non. La jouissance n'est pas ce qu'il y a de plus fondamental dans l'acte humain. Alors, je cherche progressivement et je crois qu'aujourd'hui l'expérience capitale sur laquelle je peux ériger une éthique philosophique, c'est l'expérience de l'amour d'amitié. Je crois bien. Parce que cette expérience de l'amour d'amitié, c'est la rencontre avec une personne humaine que je considère comme mon bien. J'aurais pu ajouter, ajoutez-le, l'expérience religieuse. Ça, ce serait très intéressant. Est-ce que ce n'est pas l'expérience religieuse qui fonde la morale ? L'éthique. Puisque nous avons vu que l'éthique ancienne était gardée grâce aux traditions religieuses, eh bien je dis non. Parce que l'expérience religieuse ne me donne pas une expérience de Dieu. Ça me donne une expérience d'un acte humain qui a un caractère particulier, qui reconnaît la présence de celui qui est le Créateur. Mais je n'ai pas l'expérience d'une nouvelle réalité. Et donc, ce serait une expérience avant tout interne qui ne suffit pas pour fonder l'éthique. Parce que cette expérience interne, comme toutes les expériences internes, présuppose une autre expérience. L'expérience interne n'est jamais première. Jamais. Pourquoi ? Parce que je suis un être incarné avec ma sensibilité. Seule l'expérience sensible poussée jusqu'au bout me permet de contacter le réel extérieur à moi. Toute expérience interne, quand j'en cherche le fondement, me ramène à moi. Et non pas à une réalité qui est autre que moi. C'est pour ça que je ne peux pas commencer par une éthique religieuse. Comme je ne peux pas commencer par une éthique chrétienne, puisque l'éthique chrétienne repose sur la foi et que la foi est un don qui n'est pas donné à tous les hommes. Et donc je dois garder garder ce caractère exhaustif de l'éthique philosophique. Seule l'expérience de l'amour d'amitié est donnée à tous les hommes, avec des degrés différents. La camaraderie, c'est une certaine amitié. on dirait plus facilement le... Il y aurait l'amour de galanterie, vous voyez, vous êtes au 17e siècle. Si c'est ça, c'est Aphrodite, ça peut prendre ça. Ça mot, l'amour de dilettantisme. L'amour d'un don Juan, ça c'est Eros. Mais c'est très curieux que le français traduit tout par amour. Alors on doit mettre des qualificatifs à amour. On dit amour d'amitié, amour spirituel, amour passionnel, amour instinctif.